La curiosité est un vilain défaut.
La magie, c'est tout simplement le rêve, je pense. C'est ce qu'on a quand on est petit. On rêve de choses inaccessibles.
Sur RTL.
T'as eu beaucoup de chance. Toute ta vie, t'as eu de la chance. Toute ta vie. Aujourd'hui, j'ai fait toute ma vie, j'ai fait que magicien. Et si ça sera à refaire, je ferai magicien.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonjour Dany Larry.
Bonjour. Merci de m'accueillir.
C'est une joie.
Heureux de vous accueillir dans la curiosité. Vous êtes l'une des stars de la magie en France et dans le monde. Ce mois de mars, c'est la 12e édition du championnat de France de la magie. Vous l'avez gagné ce titre
il y a
bien longtemps.
Il y a très très longtemps.
Quand vous étiez tout jeune adulte, c'est ça?
Oui. Ouais. J'avais 20 ans à peine. Ouais.
C'est encore possible d'inventer des tours de magie parce que vous en avez inventé plus de 400, je crois. Est-ce qu'on peut
encore créer... J'ai arrêté de compter à partir de 400.
Ah d'accord, donc c'est beaucoup plus que ça.
Voilà. J'ai arrêté.
Vous continuez d'inventer des
tours? Oui, bien sûr. J'invente tout le temps, c'est dans mon ADN.
Comment on fait pour inventer un tour de magie? C'est-à-dire que tout vous inspire, vous voyez un verre, vous dites « Ah, celui-là, il va voler au-dessus des plaines ». Enfin, je ne sais pas, je m'emballe un peu, mais...
C'est un peu ça. C'est-à-dire que la chose la plus difficile, c'est d'inventer l'effet. C'est ce que je dis toujours, l'effet magique. Par exemple, je vais m'asseoir sur un tabouret, je vais jouer au piano, le piano va voler, il va faire des loopings, il va redescendre, je vais me lever et je vais saluer le public. Ça, c'est l'effet. C'est plus facile, c'est plus difficile à inventer l'effet que le trucage du piano qui vole. Vous voyez ce que je veux dire?
D'accord. C'est le résultat presque qui est le plus dur à obtenir.
Le scénario, on va dire.
D'accord.
Le scénario est toujours beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que quand je vois peut-être une publicité, un objet, une vitrine dans un magasin, j'essaye toujours de le transposer. Comment on peut faire une illusion avec ça? Et une fois que j'ai l'idée... Après, le trucage, il vient tout de suite derrière. Ça, c'est pas compliqué.
Mais ah bon, c'est pas, quand même, vous travaillez comment? En atelier, après? C'est de la mécanique?
Oui.
C'est,
alors moi, depuis tout petit, je suis un roi de la bidouille. Ouais. J'avais mon papa qui était menuisier. Il était le menuisier du général de Gaulle à l'époque. Mmh. Et il m'a appris la construction. Et j'ai eu la chance de fabriquer moi-même mon propre matériel. Alors, je me suis évidemment aidé d'un peintre, d'un soudeur, d'un menuisier, des gens qui m'entourent. Mais je construis mon propre matériel.
Ouais. Le spectacle qu'on peut voir, par exemple, sur la scène du Casino de Paris, c'est demain et samedi. Combien de temps de travail ça vous a demandé d'imaginer tout ce spectacle? Comment vous l'avez construit?
Alors, ce spectacle m'a demandé 2 ans, en fait. 2 ans. Et c'était le spectacle le plus simple pour moi à monter. Et finalement, je me suis aperçu que c'était le plus compliqué.
Pourquoi?
Alors, parce que pendant des années, pendant plus de 15 ans, j'ai créé ce que j'ai appelé la comédie magical. C'est-à-dire qu'au lieu d'aligner des tours de magie à la queue leu-leu, j'ai rassemblé tout ça et j'en ai fait une histoire avec un personnage. Et je jouais le rôle soit d'un conte, soit d'un professeur. Mmh. Et les gens, je les embarquais dans mon univers et dans cette histoire, avec des hauts, des bas, des péripéties, de l'émotion. Et à la fin, les gens oubliaient le côté trucage de magie, exactement comme quand on allait voir un film de Spielberg, on cherchait pas les trucages de cinéma. Donc on rentrait dans l'histoire. Et ça, j'avais trouvé ça formidable. Et puis, dans ce spectacle Tic Tac, je raconte mon histoire. L'histoire d'un gamin qui s'appelle Dany Larry, qui a 8 ans, et qui rêve de devenir magicien. Et il a fallu que je retrouve dans ma mémoire tous les meilleurs moments, tous les moments clés pour essayer de rassembler tout ça.
Et forcément, votre premier tour de magie, vous en
souvenez?
Voilà,
exactement.
C'était quoi le premier tour de magie de Dany Larry?
Alors, mon premier, c'est j'ai déchiré une feuille de journal et je l'ai reconstituée. J'avais vu ça à la télé, mais je n'avais pas compris tout de suite. Alors j'ai déchiré tous les journaux dans la cuisine de mes parents. Ma mère qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fabriques, mon fils? Pourquoi tu déchires tous les journaux ?» Je dis « Maman, je vais refaire le tour du magicien. » Et j'avais déjà compris à l'âge de 8 ans que pour essayer de faire quelque chose, il fallait au moins essayer de le faire, quoi. Pas essayer de réfléchir.
Vous avez utilisé du scotch, par exemple, transparent, des choses comme ça, c'est ça,
Daniel? J'ai tout essayé.
Vous avez réussi finalement à recoller ce journal?
Alors, j'ai réussi à coller le journal. Mon père, qui était un bon public, m'avait dit « Mon fils, comment tu as fait ?» Alors, il a bien vu que j'avais caché l'autre boulette dans la main et tout ça. Et alors, je peux vous dire que mon père connaissait très bien le Père Noël, parce que la même année, j'ai eu cette fameuse boîte de magie. Et là, il ne pensait pas que cette boîte allait être une révélation. Et depuis, cette boîte, je l'ai toujours. et je n'avais qu'un seul but, c'est de devenir magicien.
Et c'est ce que vous racontez donc dans ce spectacle,
Tic-Tac,
qu'on voit au Casino de Paris demain et samedi, et puis qui est en tournée également. Ce qui est frappant dans votre histoire, mais en préparant l'émission, c'est le fait que vous avez inventé tous ces tours, vos propres tours de magie. Vous dites, j'ai arrêté de compter à 400, mais surtout qu'il y a un marché. J'étais surpris de ça. C'est-à-dire qu'on peut acheter des tours de magie.
Alors, ça vous intéresse, Thomas?
Je suis pas sûr que je serais très doué
illusionniste. Il y a un marché sur tout. Il y a à Las Vegas, un peu de partout dans le monde, il y a des grandes conventions qui réunissent tous les magiciens. Alors on dirait une convention de druides où on s'échange un peu les tours et tout ça. Alors il y a des magiciens qui achètent leurs tours. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas des bons magiciens.
Bien sûr.
Ils achètent la technique, les
fêtes. Ils achètent le matériel. D'accord. Et puis il y en a d'autres qui sont, que des concepteurs de tours, qui sont incapables de les présenter.
Ah, qui vont jamais sur scène.
Mais qui vont jamais sur scène. Voilà.
Les deux, vous.
Voilà, pour nommer un des grands constructeurs, il s'appelle John Gogan, il est aux États-Unis et il a inventé pratiquement tous les trucs de David Copperfield. Mais lui-même, il se produit rarement sur scène. Mais par contre, c'est un grand créateur.
Le tour le plus cher que vous ayez vendu, Dany Larry, c'est quel tour de magie?
Le plus cher, c'est même pas, vous savez,
celui qu'on vous demande le plus.
Alors, celui qu'on me demande plus, c'est le piano qui vole. Et j'en ai fait que deux, voilà. Mais un jour, j'ai eu la visite de Siegfried et Roy. Vous savez, ces deux magiciens de Las Vegas, le blond et le brun, dont un a eu un problème avec un tigre. Ils sont venus me voir en Alsace, quand je travaillais là-bas. Ils ont pris un avion de Las Vegas pour venir me voir, pour m'acheter un numéro incroyable où je faisais disparaître une fille dans un canon et elle apparaissait dans un aquarium rond, une boule remplie d'eau. Et elle faisait tout un numéro aquatique. Et je l'ai fabriqué, je l'aurais porté à Las Vegas, ce truc que j'avais, et là j'avais 32 ans quand j'avais fabriqué ce truc là et voilà, mais c'est pas le plus cher parce que moi je suis pas un vendeur de tours. D'abord, ceux qui m'achètent des tours, c'est forcément des copains, des confrères, mais des copains qui travaillent soit à Las Vegas, soit en Chine, soit au Japon. Donc il n'y a pas vraiment de concurrence. Un magicien connu, Hans Klok, qui est le plus grand magicien hollandais, qui est actuellement à Las Vegas, je ne sais pas, il doit avoir une quinzaine de tours que j'ai fabriqués. Mais c'est surtout des copains, voilà.
L'important, c'est qu'un vrai magicien essaie d'inventer quelque chose de nouveau qui oblige les autres magiciens à s'arracher les cheveux.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Si vous voulez connaître le prix à payer pour faire de la vraie magie, allez au Tenley. Il y a un Chinois là-bas qui a vraiment payé de sa personne.
RTL.
Vous irez voir ce spectacle. Et celui d'entre vous qui pourra m'expliquer le tour de l'aquarium magique sera récompensé.
La curiosité est un vilain défaut.
Extrait du Prestige, film de Christopher Nolan avec Hugh Jackman et Christian Bale, qui parle évidemment de magie. Nous, on adore ça, la magie, à la curiosité. On adore les magiciens, les grands destins. C'est pour ça que Dany Larry est dans notre studio de la curiosité, roi des magiciens et des illusionnistes. J'ai vu, quand vous avez entendu la bande-annonce de ce film et qu'on a parlé d'aquarium magique, tout de suite, vous avez...
c'est génial.
C'est un beau tour.
Je finis le spectacle avec ça.
C'est quoi ce tour?
Je finis la première partie avec un aquarium où je me fais immerger dedans, dans une cage avec du feu, parce qu'on verse 20 litres d'essence dessus, donc tout ça prend feu, et j'essaye de sortir de là-dedans. J'espère que ça va marcher demain au casino.
Est-ce qu'un risque à chaque fois, c'est pas...
Ah ben le risque zéro n'existe pas. Vous savez, quand on prend ce genre d'initiative et ce genre de bêtises, on sait ce qu'on fait. Hein. Voilà. Et la deuxième partie, et il y a aussi un autre aquarium, mais là, c'est Albert qui le fait, c'est mon fils.
Ah, c'est vrai que la relève est déjà là.
Ouais.
C'est une belle histoire.
Alors,
ça aussi.
Oui, j'en profite pour présenter mon fils qui a 28 ans, qui s'appelle Albert et qui veut faire magicien. Mais avant de faire magicien, il a d'abord fait tout le reste.
C'est quoi tout le reste?
Il a chargé des camions, déchargé des camions, fabriqué du matériel, balayé la scène. Faire de la régie, son, lumière, technique. Et quand il a su faire tout ça, éventuellement, s'il avait un peu de talent, il aurait pu faire magicien.
Et il en a.
Oui. Voilà. Ça se rapproche des métiers du cirque, un peu, votre vie, quand vous êtes en tournée.
Complètement, complètement. Le métier d'artiste, on doit savoir tout faire. Et le numéro qu'Albert va faire, c'est un numéro, justement, pour faire référence au prestige, c'est un numéro où je suis très fier. Parce qu'à ce jour, aucun illusionniste au monde a compris comment j'avais fait.
Vous nous dites juste en quelques mots, sans déflorer le
C'est très
le
simple.
Tour.
Il rentre dans un aquarium vertical qui est un peu octogonal, ouais. Et on tend un lycra juste au milieu de la paroi, c'est-à-dire qu'on voit constamment le haut et le bas de l'aquarium, mmh. Et avec ses mains, il pousse le lycra petit à petit pour sortir par la paroi de devant. Et il se retrouve à l'extérieur de l'aquarium. Ce qui est absolument impossible. Parce que s'il y avait la moindre trappe, l'eau s'en irait. S'il y avait la moindre ouverture, l'eau partirait. C'est impossible à sortir comme ça. Et donc aujourd'hui, aucune personne n'a compris comment ça marchait.
Parce qu'il y a ça aussi, il y a cette part de défi entre illusionnistes. On va raconter ce que vous racontez sur scène avec ce spectacle Tic Tac, c'est-à-dire votre vie de magicien, d'illusionniste. Vous nous racontez le premier tour à l'âge de 8 ans, c'est ça. Et la première scène, la première fois que vous montez sur une scène avec peut-être un maigre public, vous aviez quel âge ?
Alors, au départ, mes premières scènes, c'était les anniversaires de tous les copains. Alors okay. Moi, j'étais le gars qui était le plus invité dans tous les anniversaires. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et puis, bizarrement, je vais vous dire quelque chose. Ma première scène professionnelle, c'était le Casino de Paris.
Déjà ?
Incroyable, oui.
Mais dans quel cadre ?
Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je travaillais sur le bateau de croisière, le Mermoz. Et ce jour-là, il y avait Pascal Sevran qui travaillait et qui avait le grand salon. Et un jour... la directrice de croisière Monique Rose lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Elle lui a dit, monsieur Sevran, vous allez prendre le petit salon parce que j'ai beaucoup plus de demandes pour le magicien que vous. Et il a été mais furieux. Mmh. Ce jour-là, le bateau a bougé. Il n'a pas fait son spectacle avec ses tours de chant au petit salon. Et il est venu me voir. Et il m'a dit, je m'en rappellerai toujours cette chose suivante. Il me dit, vous, je vous déteste, mais je vous engage.
Merveilleux.
Et il me dit, je fais la semaine prochaine le Casino de Paris, ça s'appelle Paris Casino, et je savais pas qui pouvait faire ma première partie. Et un chanteur, c'était pas possible, un comique, bon, pourquoi pas, mais bon. Et là, il a dit, un magicien, c'est génial. Et j'ai fait ma première partie, j'avais 24 ans, ma première partie au Casino de Paris, la première partie de Pascal Sevran. Et puis 22 ou 23 ans après, je me retrouve là-bas. C'est incroyable quand même. Et moi, alors au départ, je pensais que c'était ça le business. Je me suis dit, mais c'est génial finalement d'être magicien.
Et comment vous avez appris à être magicien, Dany Larry ? La technique, alors votre père était menuisier, vous saviez faire de la bidouille, comme vous disiez, bricoler. Mmh. Mais il n'y a pas que ça, vous avez lu des livres de grands magiciens.
Alors, je vais vous expliquer. Vous savez, quand on se documente sur la technique de la magie, et une fois qu'on a compris le mécanisme, le principe... Il est simple, le principe. C'est le détournement d'attention, c'est une façon de présenter les choses que si, maintenant, avec la vidéo, on se dit pourquoi il a présenté comme ça et pas comme ça, donc ça peut amener à savoir comment on peut deviner le trucage. Donc, le principe, je l'ai compris très vite dans les bouquins, et après, tout le reste, après, ça découle. Puis j'ai eu une chance incroyable, quand même. C'est l'histoire de Robert Houdin.
Voici José Garcimore.
Merci.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Merci d'applaudir avant, parce qu'après on ne sait jamais. Bon, alors j'avais préparé quelque chose là pour vous faire passer un petit moment.
RTL.
Je suis là pour vous faire quelques tours et c'est pour ça que toujours je demande un partenaire qui vient vers moi. Comment allez-vous? Ça va?
Ça
va bien. Vous venez de loin?
De oui.
De
oui.
Oui. Et vous me dites oui que non.
La curiosité est un vilain défaut.
Ça commence bien.
Garcimore sur scène, ça rappelle des bons souvenirs. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. On est avec Dany Larry qui pratique cet art magnifique de nous laisser bouche bée. Voilà, on est toujours comme ça dans vos spectacles. On se dit bien, comment il fait ? Comment c'est possible ? Et il y a un lien particulier que vous avez avec le créateur de la magie, on peut vraiment l'appeler comme ça. On avait raconté son histoire dans La Curiosité sur RTL, c'est Jean-Eugène Robert Houdin. Vous avez même un de ses livres, c'est ça?
Ah non, je vais tout vous expliquer. J'étais sur un bateau de croisière et un jour je rencontre une dame qui s'appelle Madame Rey, et bien plus tard j'ai su que c'était la baronne Emmanuelle Rey, et c'est tout simplement l'arrière-petite-fille de Robert Houdin.
Incroyable.
Et un jour... au Casino de Paris, justement, encore. Et c'était un 25 décembre, et c'est pour ça que je crois au Père Noël. Un jour, elle m'a invité chez elle et elle m'a offert les 600 livres de son arrière-grand-père.
C'est-à-dire tous ses tours de magie, tout ce qu'il avait imaginé ?
Toute la collection complète de Robert Houdin est à la maison. Et donc, j'ai lu tous ses livres, évidemment. Et aujourd'hui, j'ai compris la magie de Robert Houdin. Alors, pourquoi il était le plus grand magicien de tous les temps ? Non, ce n'est pas David Copperfield le plus grand magicien de tous les temps. Il a été français, c'est Robert Houdin. Mmh. La magie française, ça a été la magie la plus grande au monde. Les plus grands illusionnistes sont nés de la France. Mmh. Pas aux États-Unis ni au Japon,
oui, d'ailleurs,
nulle part.
Houdini lui pique son nom. Exactement. Et une partie de ses tours.
Tout à fait. Mmh. C'est-à-dire que Robert Houdin a inventé la magie moderne. Alors qu'est-ce que c'était ? C'est tout simplement, avant Robert Houdin, les magiciens, c'était des Merlin l'Enchanteur, avec des chapeaux pointus, des barbes. Ils se déguisaient, ils avaient des objets qui ressemblaient qu'à des trucs de magie, des anneaux, des tubes, des trucs.
Ça vous plaît pas.
Voilà, c'était horrible. On se disait, bon, c'est des trucs de magie, quoi. Mmh. Robert Houdin, lui, s'est habillé en queue de pie. Mais en queue de pie, c'était le costume de l'époque, parce que c'était en 1900, donc il était en queue de pie. Et quand les magiciens, ils sont habillés en mandrake, ils ne savent pas qu'ils imitent Robert Houdin, mais c'était lui. Il est habillé. Et puis, il utilisait des objets usuels. Il avait un verre, un foulard, il le mettait dedans, il disparaissait. Les gens disaient, mais comment il a fait ? Moi, j'ai le même verre à la maison, ça marche comment ? Et il avait eu cette idée de génie d'utiliser des objets usuels, et il a créé un spectacle sur sa scène comme un salon. C'est-à-dire qu'il y avait un canapé, une table, une lampe et tout ça. Donc, tout d'un coup, ces tours de magie devenaient vraiment des miracles. Mmh. Et moi, quand je m'envole avec mon piano, j'utilise un vrai piano. Et c'est de la magie comme Robert Houdin. J'utilise un objet usuel.
Mais
c'est ce qu'il a inventé, Robert
Houdin. Dans votre spectacle, Tic Tac, ou dans les précédents, il y a des tours de magie qui sont directement inspirés ou même qui ont été créés par Robert Houdin.
Alors, non, parce que la technologie à l'époque, il a inventé la lampe incandescente avec le filament végétal, bien avant Edison. Il a inventé des tas de choses, Robert Houdin. Donc, la technique a énormément évolué. À l'époque, il n'y avait pas de télécommande, il y avait des remontoires, et il fallait déclencher
c'est
des systèmes.
C'est bien le remontoir.
Bon, voilà, c'est très bien. Donc, la technique a évolué. Mais l'idée des tours, le mécanisme...
L'imagination, l'invention.
C'est Robert Houdin.
Et Daniel Harry, vous utilisez, je ne sais pas, Internet ou des ordinateurs pour vos tours de magie ? Est-ce que ça, c'est entré ou ça reste quand même encore très...
La vidéo,
je ne suis pas très fan de toute cette nouvelle technologie parce qu'on dépend de ça. Il n'y a personne qui va me dire au monde qu'un jour, il n'a pas appuyé sur sa zapette et que sa télé n'a pas marché ou son portail ne s'est pas ouvert. Donc vous imaginez, moi j'appuie sur une zapette et ça ne marche pas, je fais quoi ?
Vous avez déjà raté un tour, Daniel Harry, devant tout le monde ?
Un paquet de tours.
Non, mais ça nous rassure, vous êtes humain, par exemple.
Oui, exactement. Une fois, j'ai fait une chute de 12 mètres. Hein, j'étais déguisé en diable et je me suis envolé dans les airs. Et puis un peu, la machinerie, elle a fait des caprices et je me suis retrouvé 12 mètres en bas. Donc là, je n'ai pas eu grand-chose. J'ai eu juste 6 fractures. Hein, j'aurais pu être paralysé parce que 12 mètres, ça fait... Je suis arrivé en bas, il est comme si je rentrais dans un mur à 180 km/h. Hein. Donc j'ai eu 6 fractures, j'étais cassé de partout. Il y avait plus de facilité.
La chose la plus importante que vous avez eue en tête, c'est de sauver le costume.
Oui, ça c'est marrant ça. Ah, vous êtes bien renseigné.
Mais pourquoi ?
Oui, parce que c'était les débuts du spectacle et j'avais fait un costume de diable qui était sublime. Et c'était mon assistante qui l'avait cousu par paillette à la main. Et quand le chirurgien est arrivé avec sa grosse paire de ciseaux et qu'il a voulu couper le ciseau, je lui ai dit, pas le costume. Sauvez-moi si vous voulez, mais pas le costume. Voilà. Ouais. Il m'a dit, on s'en fout du costume. Et puis voilà.
Alors il y a une histoire qu'il faut raconter pour terminer, Daniel Harry, c'est l'histoire de cette salle de spectacle. Et grâce à vous, on va aller dans la Drôme. Magnifique région. Vous avez créé votre propre salle de spectacle, c'est ça ?
C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Après avoir fait 3 ou 4 fois le tour du monde et créé des illusions pour les plus grands et m'amuser dans toutes les grandes salles du monde, j'ai posé mes valises à côté de chez moi, à Romans. Il y a un petit village qui s'appelle Barbière et j'ai racheté une vieille usine de textile que j'ai complètement transformée en une magnifique salle de spectacle.
Elle est belle. Vous nous avez montré les photos.
Voilà, on dirait une vieille gare de 1930. Oui. Je me suis très inspiré du film Hugo Cabret, qui est sublimissime.
Magnifique.
Et puis c'est un mélange entre le pavillon Baltard et le musée des arts forains. Voilà, tous les deux ensemble. Et donc, j'en ai profité pour exposer tout mon matériel que j'ai créé pour Patrick Sébastien pour l'émission Le plus grand cabaret du monde.
Qu'est-ce qu'on trouve comme matériel, par exemple?
Ah ben, on trouve tous les numéros que j'ai inventés, que ça soit la fusée, le numéro du casino, la disparition de la voiture. Il y a même l'ascenseur que Johnny Hallyday a utilisé pour son concert à Bercy. Il y a une fusée que j'ai fabriquée pour Laurie, une pyramide que j'ai fabriquée pour Philippe Candelero. Donc tout ça, c'est tout exposé dans cette immense salle. C'est en moitié une salle musée. Et en même temps, j'ai une scène immense qui fait la dimension d'une scène de Zénith. Et je présente mon spectacle chez moi, la maison.
Et ce qui est passionnant, parce que j'imagine que quand on est magicien, il y a quand même toute une machinerie. Et certains tours demandent de la machinerie. Et vous devez être frustré dans certaines salles qui ne sont pas adaptées. Est-ce que là, vous avez créé la salle
Exactement. Mettez le doigt sur quelque chose de très important pour un magicien qui fait de la grande illusion. C'est-à-dire que nous, on est tributaires du transport. Voilà, dans mon dernier spectacle, le château, le rétro-temporis, j'avais 5 semi-remorques sur la route.
Il y avait quoi dedans? Les décors?
J'avais une moto, j'avais un avion, j'avais plein de choses. Je faisais apparaître des trucs au-dessus du public et tout ça. Donc on est tributaire de cette technique, malheureusement. Oui. Mais là, dans ma salle, il n'y a plus de transport, tout est déjà installé. Et donc, je peux m'éclater, je peux faire les plus belles illusions du monde chez moi. Je suis à la maison.
Oui, alors sans trop révéler, mais est-ce que la salle elle-même est piégée? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le public va avoir des surprises?
Oui, les gens, quand ils rentrent dans le hall d'entrée, qui est magnifique, ils sont accueillis par des gens, par une table qui marche toute seule avec des jambes, avec une tête qui est posée sur un bouquet de fleurs.
Et qui parle?
Et qui accueille les gens. Donc déjà, les gens, quand ils rentrent dans la salle, le spectacle a déjà commencé. Et ça, c'est extraordinaire.
Rappelez-nous juste ce que votre père vous a dit quand vous lui avez dit que vous vouliez être magicien.
Voilà, il m'a dit, mon fils, c'est bien, tu veux faire magicien, mais comme métier, qu'est-ce que tu veux faire?
Voilà. Vous avez répondu à la question, merci
vous
beaucoup.
Vous avez mené sur les routes de la planète.
Vous avez dit au début de l'émission que vous aviez une petite surprise pour nous.
Oui, j'aimerais vous faire un tour de magie, mais malheureusement, les auditeurs ne vont pas le voir.
Alors. Ah,
mais
on va le filmer après l'émission. D'accord.
Génial.
Et avec qui, Thomas, moi?
Avec vous.
Avec moi, d'accord, très bien.
On n'était pas loin de la Saint-Valentin, j'ai préparé un petit tour d'amoureux.
D'accord, désolé Jérôme, c'est professionnel, c'est une Saint-Valentin professionnelle.
Jérôme, tu vas disparaître. RTL.